Mais en fait, la jalousie, elle s'exprime pas toujours envers les partenaires, mais des fois, elle se répercute sur d'autres figures des polycules, les méta-amours, etc.
Comme ça, on va pouvoir parler de petits cas un peu concrets. Et donc, on peut parler, par exemple, d'une situation où on a un partenaire pivot, donc en relation avec au moins deux personnes, et c'est le lien entre ces deux personnes qu'on appellera les méta. Et le partenaire pivot, si ces deux partenaires s'entendent bien, les deux méta-amours s'entendent bien, elles vont pouvoir, ces deux personnes, choisir de passer du temps de qualité ensemble sans leur partenaire pivot, et ça pourrait créer de la jalousie du partenaire pivot par rapport à la relation qu'entretiennent ces deux autres partenaires. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. On n'y pense pas forcément quand on pense à la jalousie dans des relations plurielles, mais les relations que nos partenaires peuvent avoir entre eux sans nous peut être générateur de jalousie.
Et parfois aussi, la jalousie envers le partenaire, surtout si on a construit l'idée qu'en relation plurielle, il ne faut pas être jaloux. Donc déjà, si on a cette croyance de base...
Cette pression
qui est insupportable, on va pouvoir diriger la jalousie plutôt vers les méta. Et donc, au lieu de rendre notre partenaire responsable de ce qu'elle fait, la manière dont elle se comporte, on va plutôt diriger, et c'est très fréquent, hein, les discussions communautaires sur est-ce que je dois rencontrer ma méta, c'est très fréquent. Et donc on peut venir jalouser des évolutions différentes dans les relations, donc par exemple une relation qui va se développer d'une certaine manière, et puis du coup en tant que méta, je vais pas forcément bien le voir. Ça peut être la comparaison entre méta amoureux, heureuse. Elle est très fréquente, c'est difficile de l'atténuer. Mais voilà, sur le statut, notamment quand il y a toutes les questions autour de la hiérarchie. Donc s'il y a une hiérarchie qui est assumée, par exemple, j'ai une partenaire principale et une partenaire secondaire, c'est quasi systématiquement une comparaison des statuts. Et que ce soit réel ou symbolique, parce qu'en plus, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de hiérarchie alors qu'il y en a une. Et concrètement, il y en a souvent une... Il vaut mieux l'assumer que de faire semblant qu'elle n'existe pas. Et parfois, ça va pas vraiment être là, et on va quand même avoir peur et aller chercher les petites différences. Ce qu'on invite à faire, du coup, pour diminuer cette anxiété de comparaison, ça va plutôt être de regarder est-ce que mes besoins sont remplis. Si mes besoins sont remplis, peu importe ce qui se passe à côté dans l'autre relation, si moi je suis satisfait de la position que j'occupe et du temps de qualité que je passe avec mon partenaire, en fait, ce qu'elle fait avec une autre personne, c'est pas tant l'enjeu.
Et ça va être des jalousies envers les méta. Ça va aussi beaucoup se présenter quand on va avoir un ou une partenaire pivot qui est un peu fantôme. C'est-à-dire que ce partenaire ou cette partenaire va pas vraiment faire son rôle de communication envers ses différents partenaires pour les assurer, les réassurer. Et en fait... La gestion émotionnelle, le travail émotionnel est porté par les différents métamours, mais pas par le partenaire pivot. Et c'est là où, en fait, il y a des écarts qui vont se mettre. Et notamment, on disait tout à l'heure, sur la justice et le sentiment d'injustice, si les métas investissent beaucoup dans chacune de leurs duos, mais que le partenaire pivot se laisse un peu vivre et ne crée pas de fluidité et n'entretient pas, ne fait pas son taf émotionnel, relationnel, et ça va aussi créer des situations qui peuvent générer de la jalousie.
C'est les pivots aussi qui savent pas choisir, qui veulent ménager tout le monde, qui veulent répondre, qui disent « amen à tout », mais en fait qui arrivent pas à se rendre compte que cette inconsistance, elle les dessert, parce que du coup, ce sont des partenaires sur qui on sait pas si on peut compter dessus ou pas, qui ont pas leur... Et c'est pour ça qu'on les a appelés les pivots fantômes, parce que en fait, il s'assume pas, quoi. Il y a pas un truc de « c'est mon choix, c'est moi qui décide ». Et donc, on a l'impression qu'on est face à une personne qui, en fait, n'est que le reflet de ce que l'autre partenaire veut. C'est pas consistant.
Ça veut essayer de ménager la chèvre et le chou, mais ça se positionne jamais. Et en même temps, en fait, ça ne prend pas de décision et on ne sait pas quels sont ses besoins, ses choix réels, ses envies. Et chacune essaye de répondre à ses propres besoins. Et en face, on a quelqu'un qui est un peu mouvant et sans consistance, vraiment. Une sorte de petit fantôme et sur lequel on ne peut pas s'appuyer parce qu'on ne va pas savoir si c'est les réponses que cette personne va nous apporter. Ce sont de vraies réponses ou c'est pour nous faire plaisir ou si c'est parce que l'autre a dit quelque chose. En fait, c'est ça, le manque de confiance quant au discours et au positionnement de l'autre va créer des insécurités ou va activer des insécurités qui sont déjà...
Et souvent, du coup, vu que cette personne qui est censée être donc pivot et stable ne l'est pas, et du coup, ça va reporter la jalousie sur l'autre partenaire, la méta.
Il peut y avoir aussi une autre expression de la jalousie au sein d'un polycule. Par exemple, on arrive dans on a un polycule et une partie du polycule est très soudée. Ils se font des choses ensemble, des activités, ils partent en week-end, en vacances, ils ont des projets. Et en fait, nous, on ne s'intègre pas vraiment dedans parce que l'affinité n'est pas là. Le projet qui est en cours, il ne nous intéresse pas forcément. Et on peut se sentir mis un peu à l'écart du groupe ou d'une partie du groupe, ne pas trouver notre place et du coup avoir de la jalousie parce qu'en fait, genre, est-ce qu'on appartient vraiment au groupe? Tu fais des choses avec les autres, mais tu fais pas, mais pas avec moi. Vous avez un gros projet ensemble, mais on n'a pas de projet juste tous les deux.
Du coup, ça peut être soit vers la partenaire, mais ça peut être vers le groupe, en fait. Parce que c'est toujours ces questions de place. De toute façon, dans la jalousie, il y a beaucoup cette question de place. Mais en fait, la question de la place, elle est centrale. Et pour que cette jalousie vers le groupe soit pas débordante, ça va être intéressant de questionner les places et de laisser l'espace.
Voilà. Il y a aussi quelque chose, c'est que les gens sous-estiment peut-être la différence entre équité et égalité. Est-ce qu'on a besoin que toutes nos relations soient égales, similaires, avec exactement le même temps disponible, le même jour où on se voit, les mêmes nombres de jours de vacances où on part ensemble? Ou est-ce qu'on a besoin d'équité pour permettre de répondre aux besoins de chacune des relations individuellement? Oublier qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies que les autres métamours ou que nos autres partenaires, ça nous fait aussi nous mettre sur des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Comme disait Jules tout à l'heure, est-ce que moi je suis bien dans ma relation avec ma ou mon partenaire? Si c'est le cas, en fait, qu'il ou elle fasse d'autres choses qu'il ou elle ne fait pas avec moi, ça n'a pas d'impact sur ma relation, sur mon bonheur qui m'est propre.
À cette norme d'être deux, s'en ajoute plein d'autres sur ce que devrait être un couple et sur ce qu'on est censé faire ensemble. Par exemple, être en couple, c'est habiter ensemble, c'est partir en vacances ensemble, c'est avoir des projets communs, c'est vouloir ou avoir des enfants. Cette idée qu'une relation sérieuse doit aller quelque part, donc il y a un chemin, un programme, des étapes à franchir. L'autrice états-unienne Amy Garan appelle ce programme l'escalator des relations. C'est l'ensemble des attentes sociales selon lesquelles une relation romantique devrait suivre un ordre de marche et mener au mariage, à la parentalité, à la propriété, à la cohabitation. D'abord le premier contact, du flirt, des rendez-vous et probablement du sexe. Et puis on continue en mettant en place des rituels amoureux, en se présentant en public comme un couple.
C'est ma copine, c'est mon copain.
On établit des habitudes, des attentes, des projections dans le futur, on rencontre la famille et les amis de l'autre. On habite ensemble, on partage ses finances, on se fiance, on se marie, on a des enfants, des petits-enfants et on vieillit ensemble.
Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la seule fin acceptable.
Là, en fait aussi, c'est qu'on a l'escalator relationnel en tête. Il faut débunker ce truc-là parce que comme on a cette vision de c'est quoi une évolution de relation romantique, le script, il est ancré, il est fort. Et donc du coup, si tout le monde rentre en se disant on va prendre l'escalator, c'est sûr qu'à un moment, c'est pas possible. Enfin, si, on peut faire des grandes colocations, du kitchen poly à Maury, enfin, on peut, mais c'est pas simple. Donc, en fait, si on a cette vision de l'escalator et on se dit oui, je suis d'accord pour cette place-là au départ, mais en se disant, moi, mon objectif, c'est l'escalator, c'est de monter, selon ce script hétéro-normé, en effet, à un moment, ça peut être bancal. Donc, il faut déjà avoir casser cette dynamique d'escalator. Soit c'est ce qu'on veut, on est capable de l'assumer, et si la personne ne peut pas nous l'offrir, ok, ça va pas fonctionner. Soit on sait que c'est pas ce qu'on veut, et dans ce cas-là, il peut y avoir des relations adorables, très très belles, de personnes qui se voient tous les 3 mois, qui vont passer, 5 jours ensemble, dans un cadre particulier, qui vont avoir des activités particulières, et ça va être tout, et ça va convenir parfaitement, et c'est pas une relation qui a moins de valeur.
Il y a un ordre bien précis à ces étapes de l'escalator des relations. Quand on en a passé une, on ne peut pas revenir en arrière, ça voudrait dire que la relation est un échec. Par exemple, une fois qu'on a emménagé avec quelqu'un, si on constate qu'en fait, on préfère avoir son propre espace, ça va forcément être interprété comme du désamour, en tout cas quelque chose de vraiment pas normal. Il y a aussi tout un tas de petites attentes évidentes, de comportements automatiques. Par exemple, le fait de dormir toujours dans le même lit, d'avoir des rapports sexuels réguliers, d'avoir une existence publique de couple, de passer la majorité de son temps libre ensemble. Parce que c'est très agréable, bien sûr, et parce qu'on est amoureux. Mais parfois, on le fait juste parce que c'est ce qui se fait. Pas parce qu'on en a vraiment envie. alors que ça pourrait être entendable que parfois on veuille dormir dans son propre lit, voyager avec quelqu'un d'autre, échapper à un dîner de famille, avoir plus de temps pour soi ou ses amis, ou pas avoir envie de faire l'amour. Alors, je dis pas du tout que c'est un mauvais modèle, cet escalator, que c'est conformiste ou stupide de le suivre. Je dis juste que ça ne convient pas forcément à tout le monde.
Alors déjà, la première étape, ça va être d'identifier qu'on vit quelque chose qui nous met mal. En fait, avant même d'identifier ce qui se cache derrière, c'est savoir dire « là, je ressens une émotion, il se passe quelque chose qui ne me convient pas, je me sens pas bien ». Déjà, ça, c'est la première étape. Et c'est une étape qui est déjà pas simple pour tout le monde, dire « là, il y a quelque chose que je ressens en moi, qui est de l'ordre du malaise, de l'inconfort, qui peut ressembler à de la colère, de la tristesse. » Genre, juste prendre l'état des lieux de « là, il se passe un truc en moi ». Ça, c'est la première chose. Être capable de le reconnaître. Deuxième étape, ça va être « est-ce que j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressens ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de la tristesse ?» Tout ça, en fait, comme on disait au tout début de l'émission, la jalousie, c'est un mélange de plein d'émotions, de plein de signaux un peu différents, et c'est pas forcément simple de faire le tri et d'identifier chacune des choses. Et à partir du moment où on a commencé à identifier un petit peu ce qu'on ressent, on va pouvoir évaluer à quel point c'est fort, et quelle est l'émotion la plus forte au milieu de tout ce petit mélange magma inconfortable.
Imaginez un petit thermomètre entre 0, je suis parfaitement calme et serein, et 10, je suis dans une tempête émotionnelle et j'ai envie de tout brûler, par exemple. Et donc, du coup, quand on va chercher à comprendre, à traverser cette émotion désagréable, on peut venir évaluer l'intensité entre je suis très, 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 très activée, en dessous, j'arrive à nommer mes émotions, en dessous, j'arrive à communiquer sur mes émotions, et ainsi de suite, jusqu'à redevenir parfaitement calme. Exact.
Et on va pouvoir mettre en place des petites stratégies qui vont déjà nous permettre de faire redescendre notre émotion avant de pouvoir en parler, déjà finir de faire le tri sur ce qui se passe en nous, et pouvoir en parler à notre partenaire, le cas échéant.
Est-ce qu'on peut communiquer avec l'autre quand on est à 10, quand on est complètement dans la tempête émotionnelle ?
On peut. Est-ce que ça va être une bonne communication ? Ça, c'est complètement autre chose. Je pense que quand on est en pleine tempête, ça sort de nous de façon incontrôlée, et en pleine tempête, on n'est même pas en état d'identifier ce qui se passe et ce qu'on ressent vraiment, juste on est submergé par des émotions désagréables. Et là, c'est pas le meilleur moment pour avoir une discussion rationnelle, constructive, et qui ne soit pas potentiellement blessante pour soi et pour l'autre. Donc là, on va pouvoir mettre des petites stratégies pour nous permettre déjà de redescendre un peu sur notre thermomètre et passer de la tempête émotionnelle à un moment où on arrive déjà un peu mieux à respirer et à comprendre ce qui se passe en nous. Et ça peut être des choses très simples. Sortir marcher, boire un verre d'eau, écouter de la musique, quelque chose qui nous ramène à nous et qui nous pose un petit peu et qui nous permet de faire redescendre toute cette tension. Ça va pas faire disparaître ce qu'on a ressenti, mais juste on sera plus submergé par tout.
Jalousie, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu rives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton venin la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir la haine dans l'ombre du chemin. Jamais tu ne me livres ton secret, mais tu sais ce qu'il faut tout à tour pour m'empoisonner au long des jours, mon amour. Jalousie, par toi je sais qu'un étranger a pris ma belle au cœur léger. Jalousie, j'attends dans ma folie la joie de me venger.
Par rapport à ces visages de la jalousie, chaque peur cache en fait un besoin. Et donc c'est intéressant d'aller trouver quel est le besoin auquel il faut répondre. Et encore une fois, pour avoir une stratégie de redescente de l'émotion de la jalousie qui soit pertinente. Si on ne répond pas vraiment aux besoins, on passe à côté et la jalousie, elle ne va pas s'essouffler. Pour ça, il faut vraiment réussir à analyser quel est l'événement qui déclenche dans les faits. Ensuite, on travaille sur l'interprétation qu'on se fait de cet événement. À partir de l'interprétation, on essaie de déceler quelle est la blessure. Et à partir de là, on répond aux besoins avec cette petite question magique qui est « Qu'est-ce que j'aimerais vivre que je ne vis pas actuellement ?» par exemple. Et pour ça, on peut utiliser un outil aussi que moi, je trouve qui est très intéressant, qui sont les colonnes de Beck et dont j'ai déjà parlé dans une émission, qui est de venir à l'écrit parler de la situation. On décrit la situation, on décrit les différentes émotions, on cède avec une roue des émotions. On décrit les émotions qu'on traverse et on décrit toutes les interprétations. Donc, les interprétations, ça va être les pensées automatiques qui nous viennent. Toutes les interprétations à propos de la situation. Et ensuite, on essaie de voir quelles sont les pensées rationnelles qu'on arrive à poser. Donc, quel est le contre-discours qu'on se fait dans la tête. Et après, on vient choisir le comportement qu'on pense approprié. Et donc, déjà, réussir à sortir de la réaction à chaud. Là, il y a vraiment un apprentissage pour pouvoir traverser une émotion qui est désagréable. Ok, et ben ça va être tout d'abord d'identifier donc cette émotion, de venir s'ancrer, donc toutes les techniques d'ancrage, nommer l'émotion en général, juste la nommer, ça va permettre de redescendre dans l'intensité émotionnelle. Et ensuite, de trouver des stratégies pour revenir à un état où on peut se parler et se comprendre avec les autres. Et une fois qu'on a compris, donc tirer les fils avec la personne qui nous active, ou pas que, ça peut être aussi avec des amis, on va essayer de voir quelle est, c'est quoi cette chose dont j'ai besoin et que je ne vis pas. Et construire quelque chose avec son partenaire.
L'émotion de la jalousie, de la colère, de la peur qu'on va ressentir, c'est pas des choses qu'on cherche forcément à faire disparaître, ce sont des choses qu'on cherche à comprendre pour éviter de se retrouver en boucle dans les mêmes situations de peur, de tristesse, de colère, qui vont finir par nous faire du mal à nous et à nos relations.
Et moi, je pense que c'est important que, justement, on ne soit pas dans un discours de faire taire. Enfin, c'est pas une injonction au silence, en fait. S'autoréguler, c'est pas faire taire la colère, etc., qui peut être, si on prend d'un point de vue politique, très intéressante. Donc c'est pas une injonction au silence, c'est pas une injonction au développement personnel non plus, en mode « gérez-vous » et en fait ne ressentez, soyez pas débordant ou ce genre de choses. C'est juste que dans des situations où on aime les gens, eh ben on a envie plutôt que ça se passe bien. Mais la colère qui naît des injustices, donc face aux oppressions, elle est légitime, et plutôt on a envie de la diriger vers la lutte, cette colère. Est-ce qu'on a envie de la diriger vers les personnes qui nous entourent et qu'on apprécie, ou est-ce qu'on a envie de la diriger vers la lutte? Et après, si on est en lutte avec les personnes avec qui on relationne, peut-être faut se poser une question. Quand même. En fait, si on ressent cette colère très forte, ça nous invite à regarder un peu si nos limites personnelles, elles ont été franchies. C'est un bon indicateur, la colère. Et dans tous les cas, la violence entre partenaires, elle doit être combattue. Par contre, les conflits, ils existent et ils vont continuer à exister dans à peu près n'importe quelle relation. Et les conflits, ils ne sont pas mauvais en soi, c'est la manière dont on les gère qui fait que ça va être une relation où il va pouvoir y avoir de la confiance et où toutes les émotions désagréables vont pouvoir être accueillies et traversées.
Comme on disait au début, hein, il n'y a pas une sorte de Saint Graal sur les mythes autour des relations plurielles, de Saint Graal de ne plus jamais ressentir de jalousie ou ce mélange d'émotions de peur, colère, tout ça. Ce qui est important, c'est quand ça arrive, parce que ça arrive, comment c'est accueilli, comment on traverse ce moment-là, comment on peut le communiquer à l'autre et comment en fait on résout.
Plus on résout des conflits et plus en fait on vient réparer quelque chose. Et c'est là où je refais le parallèle avec l'attachement. C'est que une relation dans laquelle il y a de la sécurité, de la confiance et qui traverse des conflits, c'est une relation où romantique où on vient réparer des insécurités, des blessures, etc.
C'est ça, on va créer un nouveau référentiel où traverser quelque chose de désagréable, c'est plus un danger, c'est juste quelque chose qui arrive et qui ne remet pas tout forcément en question et qui nous... Oui, clairement, qui ne nous met pas en danger. Yeah, je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Jalousie. Je reste dans mon jacuzzi, reste dans ta jalousie. Jalousie. Et là, je parle, on appelle ça de la jalousie. Et je me parle, on appelle ça de la jalousie. Tu pars de l'œil, on appelle ça de la jalousie. Laisse les parler.
Mais tout ça, c'est de la construction sociale, en fait. Et la croyance que l'amour, ça doit être léger, on doit pas se poser des questions, et que de manière générale, les relations, c'est naturel, C'est faux. En fait, c'est construit. Nous, on vient expliquer des mécanismes qui, en fait, dans la vie de tous les jours, on n'y pense pas. Une fois qu'elle est intégrée, elle devient aussi naturelle dans une relation qu'une discussion. C'est juste, oui, là, on vient l'intellectualiser, mais justement, le message derrière, c'est de vivre les trucs pour de vrai. Moi, dans mon expérience personnelle, par exemple, de la manière dont je vis mes relations, il y a des moments de discussion, d'introspection, de décortiquage, très, en effet, très pointilleux. On va dans le détail, on va creuser, chercher, etc. Et comme ça, c'est fait, on peut se permettre un lâcher-prise total à d'autres moments. C'est-à-dire d'accord. qu'il y a d'autres moments où on dit, en fait, on est d'accord sur tout là, c'est parfait, mais on va vivre le truc à fond. Et de rentrer justement dans un...
Ça, je suis totalement d'accord.
Je suis trop, trop bien.
Quand on n'arrive pas à correspondre à ce modèle, que ça nous étouffe, on peut se sentir coupable, inadapté, ou rejeter la faute sur l'autre. On pourrait aussi examiner chacune de ces obligations et conventions pour se laisser la possibilité d'inventer autre chose, ensemble.
Enfin, j'ai eu des phases comme ça où j'ai eu plein d'amants, qui étaient des phases très heureuses, très joyeuses, mais que j'avais toujours vécu comme des moments intermédiaires, des trucs en attendant. En attendant la grande histoire d'amour, qui finissait par arriver, qui était super cool au début, et puis qui, à un moment, commençait à m'asphyxier, et où peu à peu je me sentais prise au piège et mal à l'aise et pas bien et où je luttais contre ça en me disant mais tout le monde y arrive et pas toi, pourquoi est-ce que tu peux pas rester dans cette relation et continuer et t'obstiner et construire quelque chose et travailler sur toi et travailler sur ton couple et communiquer et faire des trucs machin pour finalement se quitter dans le drame et les larmes et la catastrophe et retrouver une vie super joyeuse avec des amants jusqu'à la prochaine fois. Bah là, très récemment, je me suis dit, bah, en fait, c'est plus une phase intermédiaire, c'est ma vie. Et ça a été un basculement énorme, pour moi un choc civilisationnel à l'échelle de ma vie. Et de pouvoir me dire que c'était cool, quoi, en fait, que c'était une super bonne nouvelle, et que j'en étais contente, que ça me rendait heureuse, et que ça voulait rien dire sur ce dont j'étais capable ou pas, et sur mon bonheur dans la vie, et sur. Et que ça voulait rien dire, évidemment, non plus sur la manière dont les autres autour de moi vivent leurs relations, mais qu'en tout cas, moi, j'avais trouvé mon truc, quoi.
La jalousie.